La revue de presse, la presse de ce dimanche, lue par Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. C'est l'histoire d'un oiseau. Un conte moderne, empreint tout à la fois d'amour et de mélancolie, c'est l'histoire de Nigel, un fou de Bassan dont le destin ressemble à celui d'un héros d'une tragédie grecque. Il est mort comme il a vécu, autrement dit tout seul. Et cette histoire est à lire sur Big Brother, le blog tenu par la rédaction du Monde. Nigel, le fou de Bassan, épris d'oiseaux de béton. Nous sommes sur l'île Mana, un petit confetti de terre situé à quelques kilomètres des côtes néo-zélandaises. Une île qui, autrefois, était habitée par de nombreux volatiles, notamment par une importante colonie de fous de Bassan. Mais celle-ci, bizarrement, avait abandonné l'endroit depuis maintenant 4 décennies. Il y a 5 ans, afin de favoriser son retour, des ornithologues ont alors décidé de se faire ingénieux en installant sur l'île 80 oiseaux en béton. Des statues grossièrement finies avec un bec noir, une tête jaune pâle et un plumage blanc. Ils ont ajouté des enregistrements mélodieux diffusés grâce à l'énergie de panneaux solaires et même de fausses déjections étendues autour des statuettes cimentées. Leurrer les animaux pour les faire revenir, tel était l'objectif. Et quelques mois plus tard, hourra ! Ça y est, c'est réussi. En voilà un qui est tombé dans le panneau. Un fou de Bassan qui vient se réfugier sur les falaises désertées de l'île Mana. Les ornithologues le baptisent Nigel. Nigel s'est pris d'affection pour les statues de béton. Il a même fait son nid à côté de l'une d'elles. Et il lui est resté fidèle pendant 4 ans. 4 ans fidèle à une statue et 4 ans tout seul sur une île. Et quand à la fin de l'année dernière, 3 de ses congénères débarquèrent enfin à Mana, des vrais, en plumes et en os, Nigel n'a strictement rien changé à ses habitudes, continuant de préférer la compagnie des faux oiseaux, les oiseaux en béton, à la compagnie des inconnus qui venaient de s'installer. Nigel est mort la semaine dernière, le 31 janvier, et depuis, c'est un hommage ému que lui rendent tous les médias néo-zélandais. Avec sa tête jaune pâle, il était le fou de Bassan, sans amis.
Et il est aussi des hommes et des femmes qui vivent sans amis.
Qui vivent seuls et qui meurent seuls. Mais que de dévoués bénévoles accompagnent parfois pour leur rendre un dernier hommage au moment de leur enterrement. C'est ce que nous raconte dans une très sensible chronique Benoît Hopquin dans Le Monde. Mardi 30 janvier, sous une pluie glaciale, 2 personnes ont accompagné de l'Institut médico-légal de Paris jusqu'au cimetière de Thiers, Alain Pou, Carmen Chavet, Geneviève Boulet et Serge Videuil. Elles ont déposé sur leur tombe une fleur pour réchauffer la pierre, puis elles se sont rendues dans un café, ont consigné dans un classeur ce très sobre cérémonial, avant de publier un texte d'hommage aux défunts sur leur page Facebook. La veille, protocole similaire pour Armel Quentin, Victor Casaliero Ribeiro, Capco Mapcop et Marie-France Rigal, des personnes qui reposent désormais dans la partie du cimetière de Thiers que l'on appelle le carré des indigents. Ils sont 50 de bénévoles à œuvrer ainsi dans le collectif Les Morts de la Rue, se relayant pour accorder à des inconnus cette ultime civilité. Et malgré le nom du collectif, pour l'essentiel, ces inconnus ne sont pas morts dans la rue. Mais ce sont des morts isolés, comme les nomme l'administration, des hommes et des femmes qui vivaient totalement seuls. Aujourd'hui, la Fondation de France estime qu'ils sont dans notre pays 5 millions. Chiffre en constante augmentation. Quant aux petits frères des pauvres, ils recensent 300 000 personnes âgées en état de mort sociale. Les bénévoles du collectif sont donc à pied d'œuvre chaque jour. Demain, 5 février, 2 d'entre eux accompagneront ainsi jusqu'au cimetière les cercueils de Tony Julien, Laurent Démétriadis, René Loison, né Robin, et Jean-Jacques Roseau, dernière marque d'humanité adressée à un représentant de ladite humanité, écrit mon confrère du Monde, parce que tout être de notre misérable espèce doit avoir le droit à cette digne sortie, les pauvres comme les riches, les anonymes comme les célébrités, Alain Pou et Tony Julien comme Johnny Hallyday.
Davantage d'humanité, c'est d'ailleurs aussi ce qu'ont réclamé cette semaine les soignants des maisons de retraite.
Plus d'effectifs et de moyens pour s'occuper de nos aînés. Grève inédite mardi dernier, un dossier à lire dans Hebdo. Pourquoi ça coince? Où ça fonctionne? Reportage dans un EHPAD où il fait bon vieillir. Une maison privée à Toulon. Un souci permanent du bien-être des résidents, nombre de soignants suffisants et des formations adaptées. Lire aussi la chronique de Bruno Frappa dans La Croix. Hommage aux anciens et à tous les professionnels qui les entourent. Ferions-nous pour des clopinettes la moitié de ce qu'ils font? Leur traitement est un des scandales de la République, écrit-il. Lire aussi l'édito de Jean-Pierre Denis dans La Vie. Il évoque un monde où peuvent se côtoyer à la fois l'admirable et l'innommable. Parfois, dit-il, des hontes se font urgence nationale. Cela dit, dans la presse du jour, on est évidemment déjà passé à d'autres sujets.
Et ce matin, vous verrez deux photos à la une du journal du dimanche.
Un homme et une femme, bizarrement côte à côte. Et si je dis bizarrement, c'est parce que les actus qui font qu'on les retrouve à la une n'ont strictement rien à voir. À gauche, donc, une photo de Tariq Ramadan, l'islamologue mis en examen pour viol et qui vient de passer sa deuxième nuit en prison. Ramadan, ce qu'il accuse, titre le journal, promettant en page intérieure des révélations sur des vidéos et des SMS troublants. Et puis à droite, c'est une photo de la maire de Paris sous ce titre fourre-tout, stationnement rat, propreté, les réponses d'Anne Hidalgo. Je vous avais prévenu, rien à voir. Dès lors, que retenir de l'interview d'Anne Hidalgo? Avant tout, sa satisfaction. L'an dernier, assure-t-elle, la capitale a connu une baisse record du trafic automobile. À présent, la circulation se fluidifie. Tout le monde en convient, dit-elle. On a le droit d'émettre quelques doutes sur ce tout le monde. Maintenant, que retenir du dossier consacré à Tariq Ramadan? Eh bien, qu'en 3 mois d'investigation, les policiers ont recueilli de très nombreux éléments pour étayer les accusations de viol. Il y a notamment l'histoire d'une cicatrice qu'il a à l'aine. Cicatrice décrite par l'une des femmes qui l'accuse. Comment aurait-elle pu la voir si, comme le dit l'islamologue, ils n'ont fait que discuter ensemble? Et puis, les enquêteurs ont également mis la main sur des échanges pour le moins équivoques avec d'autres admiratrices. Un texte rédigé à l'issue d'une conférence, texto envoyé par Ramadan à une femme qui était assise au premier rang. « J'aimerais que tu sois sous la table ». De son côté, le Parisien présente à sa une un grand portrait du Premier ministre. Alors, Matignon, c'est comment? Pendant 48 heures, les reporters du quotidien ont accompagné Édouard Philippe, un reportage dans le chaudron de l'hôtel Matignon. Mais bon, honnêtement, on n'apprend pas grand-chose, à part, si on le savait déjà, à part qu'Édouard Philippe fait la collection des boutons de manchette. Il en a une centaine de paires. Enfin, les journaux évoquent ce matin la chandeleur. Une colonne notamment dans la presse de la Manche. Chandeleur, au menu. Des tripes et des pieds de cochon. Alors moi, je croyais que c'était les crêpes. Mais bon, après tout, pourquoi pas des crêpes aux pieds de cochon. L'essentiel, à dire vrai, c'est surtout d'être ensemble. Profitez de vos amis.
Mais avoir un bon copain, disait la chanson. Merci, c'était la revue de presse de Frédéric Pommier.